BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Il est 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business ici à Aix-en-Provence à l'occasion des rencontres économiques d'Aix-en-Provence comme tous les ans dans un contexte forcément un petit peu particulier cette année. Évidemment, on est à deux jours du second tour de l'élection, des élections législatives. Les politiques ne sont pas très nombreux pour être très honnête, les patrons sont là aussi et avec eux on va disserter du thème de cette année ici à Aix-en-Provence. Relier les mondes vers une réconciliation, bah ça sonne un petit peu à nos oreilles à l'occasion de ce contexte bien interrogatif du côté de la politique française. On va parler de tout ça, on va parler du monde et puis on va aussi parler de la France avec des patrons notamment qui seront là ce soir. Le patron de Michelin, Florian Ménégo, sera l'invité d'Eddie Chevrillon dans 10 minutes sur BFM Business. Le patron d'Euronext, Stéphane Bougenat, sera avec nous 19h10 et puis beaucoup d'experts pour parler bien sûr du monde mais bien sûr aussi évidemment de la situation française et puis nos experts bien sûr qui seront là jusqu'à 19h sur BFM Business. C'est parti, ça commence par le journal, on est ensemble jusqu'à 20h bien sûr.
Good evening business, le journal.
Donc pour commencer le journal, bah devinez quoi, on va aller du côté du Royaume-Uni puisqu'après une victoire il y a seulement quelques heures aux législatives, au Grande-Bretagne ça n'a pas traîné car Starmer a été nommé aujourd'hui Premier ministre. Il a déjà pris la parole devant le 10 Downing Street avec un discours résolument volontariste. On voit tout ça avec Timothée Marozet.
Après 14 ans de règne conservateur, Keir Starmer promet de reconstruire le Royaume-Uni.
Je n'ai aucun doute sur le fait que nous reconstruirons le Royaume-Uni en créant de la richesse dans chaque communauté, en remettant le NHS sur pied et en l'orientant vers l'avenir, en garantissant des frontières plus sûres, des rues plus sûres et en traitant les travailleurs avec dignité et respect.
Ces dernières semaines, Keir Starmer a reçu le soutien des milieux financiers traditionnellement acquis aux conservateurs. Il promet une discipline de fer sur les finances publiques face à une dette britannique qui flirte avec les 100% du PIB. Deuxième axe annoncé, un soutien aux investissements en faisant du Royaume-Uni un refuge où il sera possible, dit-il, d'investir en toute confiance avec un impôt sur les sociétés qui devrait rester à son taux actuel de 25%. Pendant la campagne, ses détracteurs l'ont pourtant accusé de manquer d'ambition, ce à quoi il a alors rétorqué qu'il était candidat pour être Premier ministre et pas pour diriger un cirque.
Voilà les travaillistes qui ont récupéré 412 sièges au Parlement, aux communes. Keir Starmer qui a dit vouloir reconstruire le Royaume-Uni. Il en aura les moyens avec une telle majorité. Bien sûr, on parlera de tout ça aussi avec nos experts jusqu'à 20h. En France, donc dernières heures de campagne, vous le savez, jusqu'à minuit. Il y aura donc encore 501 députés à élire dimanche prochain. Gabriel Attal a garanti aujourd'hui en tout cas que son gouvernement assurerait la continuité de l'État autant que nécessaire, je cite. Le dernier sondage ELAB donne une fourchette de 200 à 230 sièges pour le Rassemblement National, donc loin de la majorité, vous savez, des 289. Et puis en Allemagne, on s'est mis d'accord cette nuit après des jours, des semaines de discussions sur les contours du budget 2025. Et puis Olaf Scholz, par ailleurs, a annoncé un plan de soutien aux ménages et aux entreprises, un plan dit Berlin susceptible de rajouter 0,5 points de croissance au pays tous les ans. L'Allemagne est censée faire au mieux 0,3% de croissance cette année. 18h03 en France dans l'actualité des entreprises. C'est arrivé en début de semaine, mais on ne l'a dessus qu'aujourd'hui. Nestlé France a été mise en examen dans l'affaire des pizzas contaminées de chez Buitoni. On va revenir sur ce scandale qui date d'il y a quelques années, mais qui avait largement marqué les esprits. Nathan Cocampo.
Février 2022, les autorités sanitaires sont alertées. De nombreux enfants montrent une insuffisance rénale liée à une contamination par la bactérie E. coli. Il y a 56 cas de contamination et cette bactérie est suspectée d'avoir causé aussi la mort de deux enfants. Très vite, les autorités sanitaires établissent un lien possible avec la consommation de pizza Buitoni de la gamme Fresh Up, commercialisée par Nestlé depuis près d'un an. Le groupe annonce le retrait des pizzas et le préfet du Nord interdit leur production au sein du site de Caudry. Aujourd'hui, dans son communiqué, Nestlé France explique qu'il entend assumer pleinement ses responsabilités dans le cadre de cette affaire et espère que cette procédure judiciaire permettra de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame et d'apporter une certaine forme d'apaisement aux victimes et à leurs familles, avec qui le groupe a conclu un accord financier. Depuis ce scandale, l'usine de Caudry avait connu une chute vertigineuse de ses ventes, jusqu'à finalement être vendue en mars 2023 à l'italien Italpizza. Depuis aussi, Nestlé France s'est désengagé totalement de ses activités de pizza en Europe.
Nathan Cocampo avec nous sur BFM Business. Et puis un petit mot d'entreprise encore. Eurofins Scientifique, vous savez, fait l'actu. Le groupe a continué aujourd'hui de balayer les accusations du fonds d'investissement activiste Muddy Waters, qu'il qualifie, je cite, de fausses, trompeuses et diffamatoires. Le groupe d'analyse a déclaré ce matin que toute sa comptabilité était vérifiée tous les ans par le cabinet Deloitte et qu'il a mandaté le cabinet Ernst & Young pour réaliser un audit indépendant supplémentaire. Le titre a terminé ce soir en forte hausse à la Bourse de Paris. Ça tombe bien, 18h04, on va sur les marchés.
Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
Good evening business, les marchés.
Étienne Brack, bonsoir. Euronext à la Défense pour BFM Business. Comment bonsoir. Ça s'est passé ce vendredi, Étienne?
Eh bien écoutez, après deux séances dans le vert, le CAC 40 fait une petite pause. Il cède 0,25% ce soir à la clôture sous les 7700 points, 7675 points. Néanmoins, la semaine est positive avec un indice qui gagne plus de 2,5% sur l'ensemble de la semaine. Petite note de prudence avant les élections législatives de ce week-end. À noter que Wall Street est sur des niveaux records, notamment pour l'indice Nasdaq et pour l'indice S&P 500, avec l'emploi américain qui a été publié à 14h30 avec un ralentissement des créations de postes. Suite à cela, vous avez une nette détente du marché obligataire aussi en Europe. Rendez-vous compte, le 10 ans français redescend ce soir à 3,2% alors qu'il était à la porte des 3,4% en début de semaine. Un dernier mot sur les cours du pétrole qui sont sur des plus hauts de fin avril à la porte des 88 dollars pour le baril de Brent, et donc la Bourse de Paris qui cède du terrain ce soir, moins 0,26% ce soir à la clôture, 7675 points.
Merci beaucoup Étienne Brack, donc à Euronext pour BFM Business. 18h05, on est ensemble ici aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence jusqu'à 20h dans un instant. C'est la grande interview, c'est le président de Michelin, Florent Ménégaud, qui est l'invité d'Edwige Chevrillon. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Nous sommes toujours ici en direct avec mon invité. Mon invité ce soir, c'est Florent Ménégaud. Il est le président de Michelin. Bonjour Florent Ménégaud.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Oui, merci d'être là. Oui, bonjour, bonsoir, on ne sait plus très bien. Mais alors, en tous les cas, là, pour l'instant, il fait extrêmement beau et extrêmement chaud. Beaucoup de questions à vous poser sur Michelin, bien sûr. Et puis sur les déclarations qui ont fait beaucoup de bruit. Le fameux salaire décent, vous avez lancé ce pavé dans la mare. À un moment, on peut dire que la campagne, en fait, pour les élections législatives, vous a donné un tout petit peu, il y a une espèce de résonance avec la question du pouvoir d'achat et la question de la smicardisation de la société. Parce que vous avez dit, il faut un salaire qui permette non pas de survivre, mais de vivre. On va revenir là-dessus, on va revenir sur votre actualité business, parce qu'on voit que c'est un peu plus compliqué, la mer est un peu plus agitée, Florent Ménégaud. Mais une question, vous intervenez sur le rôle social de l'entreprise. C'est le thème de votre table ronde ici. Il y a un rôle social de l'entreprise, parce que si on pose la question à beaucoup de chefs d'entreprise qu'on a autour de nous, ils disent non, pas du tout. Vous, vous dites oui?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, en fait, une entreprise, c'est d'abord un collectif humain qui décide de fabriquer des choses, de fabriquer ensemble des produits ou des services. Et ce qu'on oublie toujours, c'est que dans l'entreprise, ces êtres humains sont volontaires pour fabriquer ça. Donc bien sûr, l'entreprise, c'est une forme de société, c'est une organisation humaine très efficace pour fabriquer, c'est la manière la plus efficace d'ailleurs de fabriquer des biens ou des services. Et donc, c'est une forme de société. Et donc, bien sûr, l'entreprise a un rôle social à jouer.
Oui, mais le capitalisme, c'est pas ça, hein ? C'est pas ça, le capitalisme, Florent Ménégaud ?
Eh bien, en fait, le capitalisme, en tout cas chez Michelin, il réconcilie trois dimensions à la fois. La création de valeur, bien sûr, pour l'entreprise, qui, à travers le profit, la création de valeur monétaire, mais aussi l'impact de l'entreprise sur son environnement, donc la valeur pour l'environnement. Et l'environnement, c'est l'économie de la ressource, mais c'est aussi la vie en société, autour de soi. Il ne faut pas oublier que chaque salarié est aussi un citoyen d'une ville, d'un immeuble, d'un pays. Et puis, troisièmement, Il faut s'occuper de la valeur créée pour les individus. Les individus à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi tout l'écosystème des fournisseurs, tout l'écosystème alentour et tout l'écosystème des clients.
Oui, en même temps, vous êtes, et surtout Michelin avec le pneu, vous êtes confronté à une concurrence féroce. On y reviendra. Puisque vous dites, nos salariés, ce sont des citoyens. Très peu de grands patrons se sont engagés dans la campagne présidentielle. Est-ce que vous vous êtes engagé? Est-ce que peut vous engager ou pas?
En fait, j'ai mes opinions personnelles. Oui. Mais par contre, dans l'entreprise, Michelin est présente dans 175 pays. Michelin ne peut pas s'organiser pour avoir une opinion politique dans chacun des pays dans lesquels il opère.
Non, mais le président de Michelin peut, ah oui.
Non, mais moi, président de Michelin...
Vous n'êtes pas français.
Moi, je suis français.
Oui, bien oui.
Je suis, mais en fait, Michelin, quand je m'exprime au nom de Michelin, je ne m'exprime pas au nom de Florent Ménégaud. Donc, quand je m'exprime au nom de Michelin, je représente tous les salariés, je représente Michelin partout dans le monde. Et donc, à ce titre-là, Michelin, la seule chose que je puisse dire, c'est aller voter. Le droit de vote, c'est un droit fondamental de chacune des personnes qui a été conquis de haute lutte pendant... Il a fallu des siècles pour qu'on ait le droit de voter. Donc, la première chose, c'est de voter. Mais après, d'ailleurs, nous faisons la promotion de la démocratie partout dans le monde et nous proposons à ce que chacun puisse exprimer sa voix quand il a la chance de pouvoir le faire.
Alors, sur cette question du pouvoir d'achat, la smicardisation, vous comprenez que c'était au cœur de la campagne parce qu'il y a un vrai problème?
Alors, en fait...
On ne fait pas de politique, hein, on fait plutôt oui, du social ou de l'économie, mais on ne fait pas de politique.
Je comprends. Ouais. Michelin, au moment où il y a eu cette résonance dont vous parliez, il s'est trouvé que nous parlions de l'innovation sociale de Michelin au cours du dernier siècle. Donc, l'innovation sociale chez Michelin n'a pas eu lieu depuis les derniers mois, mais ça fait des années, des dizaines d'années, voire plus d'un siècle, que Michelin innove socialement. Et à l'intérieur d'un package d'innovation sociale, nous avons illustré ce que nous faisions aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons mis en place, dès le 1er janvier 2024, un salaire dit décent, ce qui était la meilleure traduction de « living wage » au sens des Nations Unies. Le salaire décent pour tous, partout dans le monde. Et ce salaire décent, il est différent de ville à ville, de pays à pays. Il est entre Shanghai, Clermont-Ferrand, Bangkok, Rio de Janeiro... Atlanta.
Ok, mais concrètement, d'abord, est-ce que vous avez, ça y est, est-ce que c'est appliqué? Parce que ça fait quand même quelques semaines que vous l'avez annoncé. Est-ce que
En fait, ce que j'ai annoncé, c'est que c'était en place depuis le 1er janvier 2024.
Déjà, c'est-à-dire qu'il y a tous les salariés en place, y compris le.
C'est tout est en place et audité par une ONG qui est par définition indépendante, qui s'appelle Fair Wage et qui a certifié que tous les salariés de Michelin étaient au moins à ce salaire minimum.
Oui, parce qu'il y a le salaire minimum, et puis à côté de ce que vous avez mis en place, enfin, vous allez me dire si c'est déjà mis en place, le socle de protection universelle.
Alors, le socle de protection universelle, c'est ce qui permet d'assurer, si le salaire disparaît, à la famille, que les enfants puissent continuer leur éducation pendant au moins 2 ans, assurer une rente de situation pour le conjoint survivant pendant au moins 2 ans. Et oui, il sera totalement en place partout dans le monde à partir du 1er janvier 2025, donc dans très peu de temps. Et aujourd'hui, il est déployé à 80-85%.
Vous voyez bien qu'il y a certains qui disent « Mais attendez, il y a quand même une ligne en bas, là, à droite. Combien ça vous a coûté, déjà, la mise en place de cette politique sociale ?»
Eh bien, en fait, il n'y a pas eu de budget, et je ne sais pas.
Pardon, mais ça peut poser un petit problème, non?
Pas du tout, parce qu'en fait,
vos actionnaires, je sais bien que vous avez une société en commandite, vous êtes gérant, oui. Mais quand même, non?
Aucun de nos objectifs financiers n'a été changé parce que nous avions pris cette décision-là. Et en fait, la performance de l'entreprise ne peut pas être assise sur une forme de misère sociale. C'est pas possible. En fait, donc, j'ai dit à tout le monde, hein, et ça, c'est pas de l'angélisme, hein, c'est de dire, écoutez, si on n'est pas capable de payer correctement nos salariés, eh bien, il vaut mieux qu'on soit pas dans le business.
Oui, donc, vous avez écouté comme moi, il y a de nombreux chefs d'entreprise qui disent, notamment par rapport aux différents programmes, hausse du SMIC, SMIC à tel niveau, etc. On fait attention à ce qu'on dit parce qu'on va rentrer bientôt en période de réserve. Mais vous dites, c'est faux, c'est possible d'augmenter les salaires.
En fait, chaque entreprise, moi je peux parler de Michelin, chez Michelin c'est parfaitement possible et c'est parfaitement compatible. À partir du moment où les personnes maintenant chez Michelin, dans les plus bas niveaux de rémunération, peuvent se projeter parce qu'ils ont un salaire minimum qui leur permet de se projeter dans le monde, eh bien, bien sûr, nous le faisons.
Oui. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être dupliqué dans d'autres entreprises ? ou bien, qui doit être dupliqué.
Nous encourageons les entreprises qui le peuvent. Les premiers niveaux de rémunération, parce que Michelin ne paye pas tous ses salariés à ce niveau-là. Hein. Ouais. J'ai entendu de ce point de vue-là des raccourcis un peu rapides, un peu faciles, en disant que tous les salariés seraient payés à ce niveau-là. Pas du tout. Il y a une échelle de salaire chez Michelin. Et donc, les plus bas niveaux de rémunération doivent être à un niveau minimum.
Est-ce qu'il n'y a pas, dernière question là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la smicardisation, enfin, la même conséquence que la smicardisation de la société? C'est-à-dire que si vous augmentez le SMIC, en fait, du coup, il y a de plus en plus de gens qui sont payés au SMIC, et ceux qui étaient payés un peu plus, ben, ils se retrouvent au SMIC.
Écoutez, nous sommes sortis de cette logique de SMIC, puisque nous payons.
Oui, mais le salaire décent, c'est un peu la même chose.
Ben non, nous, c'est le niveau d'entrée des salaires.
Oui.
Mais après, derrière, vous avez tout un système de développement humain et de progression. Donc, on incite beaucoup les gens à être formés. Michelin dépense deux fois plus que la plupart des entreprises du CAC 40 en formation.
D'accord.
Et nous privilégions la progression sociale au sein de l'entreprise. Donc, bien sûr, les gens, quand ils rentrent chez Michelin, ils vont se développer pendant des
années. Le salaire décent à Clermont, à Paris, c'est quoi?
Donc, à Clermont-Ferrand, c'est 120% du SMIC, donc c'est 1,2 fois okay. le SMIC. Et à Paris, c'est 2 fois le SMIC.
Oui, d'accord.
Mais à Shanghai, c'est 3 fois le salaire minimum. Aux États-Unis, c'est 2 fois et demi le salaire minimum local.
Mais en même temps, c'est compliqué parce que même aux États-Unis, vous dites aux États-Unis, mais le coût de la vie n'est pas la même chose entre New York et voilà, et c'est ça, et au Texas.
C'est une moyenne, en fait, entre Greenville, il y a une valeur, à Atlanta, il y a une valeur, etc.
On parle beaucoup ici, c'est un autre thème, c'est le décrochage entre les États-Unis et l'Europe. C'est un sujet, je sais, sur lequel vous réfléchissez beaucoup. Est-ce que vous l'observez, ce décrochage? Parce qu'il y a un peu tous les avis, là. Ici, les économistes, ils ne sont pas d'accord. Il y a des batailles d'économistes. Il y a un décrochage ou il n'y a pas de décrochage, vous, l'industriel?
Alors, en fait, vous avez différentes réalités. Aux États-Unis, vous avez des systèmes d'assistance à l'investissement très élevés, avec ce qu'on appelle le programme IRA.
Oui.
Et puis, en Europe, vous avez un déficit de compétitivité sur le coût de l'énergie, l'accès à l'énergie verte et sur le coût de l'énergie. L'énergie, même si elle a baissé, elle est encore 2 à 3 fois plus chère en Europe qu'aux États-Unis ou en Asie.
Ouais.
Et puis, la deuxième chose, c'est que l'inflation salariale, de ce point de vue-là, l'Europe est aussi peu compétitive que les États-Unis en termes de salaires globaux. Mais la question en Europe, et notamment en France, c'est pas le salaire net le sujet, pardon, c'est pas le salaire brut le sujet, mais c'est le salaire net.
Oui.
C'est-à-dire que derrière, on empile toute une série de taxes et de structures de coûts après le salaire brut.
Donc le résultat est quoi? Pardon, mais le résultat est quoi? La réponse à ma question, c'est oui, il y a un décrochage
oui,
ou non, il n'y a pas de décrochage.
Quand vous regardez un coût de production chez Michelin en Europe par rapport aux États-Unis ou par rapport à l'Asie, eh bien derrière, l'Europe est restée à peu près au niveau des États-Unis, légèrement au-dessus des États-Unis maintenant, alors qu'elle était en dessous des États-Unis avant la crise de l'inflation. Et puis surtout, elle a décroché très fortement par rapport à l'Asie. Oui. On est maintenant 2 fois plus cher que l'Asie.
Oui, 2 fois plus cher. Et ça, c'est là, on va tout droit dans le problème de Michelin. C'est vos principaux concurrents sont évidemment chinois. Et pour vous, comment vous faites pour gagner encore de l'argent avec un pneu? C'est pour ça que vous avez lancé vous avez dit que, je crois, c'est à la fin de la décennie, plus de 20% du chiffre d'affaires de Michelin serait fait ailleurs que dans le pneu. Donc, vous êtes en train de modifier vos stratégies parce que justement, les Chinois sont en train de vous tailler des parts de marché, de vous prendre des parts de marché terribles.
Pas exactement. C'est-à-dire que, en fait, nos concurrents asiatiques interviennent sur le bas du marché et Michelin a la chance d'être positionné sur le haut du marché.
Voilà, mais il faut vraiment rester toujours dans le haut.
Michelin innove en permanence et c'est un excellent stimulant. La concurrence est un excellent stimulant pour l'innovation. Et donc, nous, on aime la concurrence. Ce qui nous gêne, c'est quand la concurrence se fait avec des règles de jeu qui sont inéquitables.
Par exemple,
donc là, on travaille sur l'Europe pour dire non, mais il faut que les règles du jeu soient les mêmes, à peu près les mêmes, entre l'Asie et l'Europe. L'Europe ne peut pas être simplement une plateforme, un marché très ouvert dans lequel tout le monde peut rentrer en ne respectant pas les mêmes règles du jeu. Donc, quand les règles du jeu fiscales, sociales, environnementales ne sont pas les mêmes, ça ne marche pas. Et donc, d'ailleurs, c'est ce que nous disons.
Ça veut dire que vous demandez quoi? Vous demandez une augmentation des droits de douane? Qu'est-ce que vous demandez?
Non, ce qu'on dit, c'est, par exemple, on va prendre dans nos produits sont des produits qui s'usent au fur et à mesure de leurs usages. Et leur performance est liée à la manière dont ils s'usent dans le temps. Et bien nous avons demandé à ce qu'on régule les règles du jeu en matière de niveau minimum de performance attendu quand le pneu est usé, par exemple.
D'accord, ok. Parce que justement, il y a quelque chose aussi qui vous perturbe, parce que je disais que les temps sont un peu plus agités. Vous avez sorti des résultats 2023 qui étaient très bons. Là, c'est un peu plus agité, mais notamment la chute de la vente de voitures électriques pour vous, c'est une très mauvaise nouvelle, non ? Parce qu'en plus, les voitures électriques, j'ai appris ça, les voitures électriques, elles consomment beaucoup plus de pneus qu'une voiture thermique.
Alors, chez Michelin, nous n'avons pas fait de commentaires sur notre performance financière. J'ai fait des commentaires sur l'environnement. Notre environnement est très agité, mais Michelin a appris à être très résilient. Et donc, nous savons naviguer maintenant dans des univers un peu plus chaotiques. Et donc, aujourd'hui, Michelin est très sain et fonctionne très bien. Alors maintenant, par rapport à votre question sur les véhicules électriques, oui, un véhicule électrique consomme naturellement beaucoup plus les pneus parce qu'il les sollicite beaucoup plus. Il les sollicite parce qu'il demande des pneus qui soient basse consommation d'énergie. Ce que nos auditeurs ne savent peut-être pas, c'est qu'un plein sur cinq dans un véhicule thermique, c'est uniquement les pneus qui le consomment. Et 20% d'énergie d'un véhicule, c'est le pneu. Et donc, il y a des technologies pour que des pneus dissipent plus ou moins bien l'énergie. Et Michelin sait très bien le faire. Un véhicule électrique est beaucoup plus lourd.
Oui.
Et il sollicite beaucoup plus les pneus. Et la répartition des masses est différente. Et il y a beaucoup plus de couples.
Okay.
Pour recharger le véhicule.
Donc si les ventes chutent, c'est mauvais pour vous, quoi ?
Non, parce qu'en fait, c'est une opportunité, parce que tous nos pneus sont compatibles véhicules électriques. Mmh. Donc, c'était une opportunité supplémentaire pour nous qui se réalisera plus loin dans le temps.
Ouais. Et donc, sur 2024, la mer n'est pas agitée. Vous pensez que vous serez dans la même épure ?
La mer est agitée, mais le bateau est très solide.
Ouais.
Et donc le bateau Michelin va bien dans une mer qui est très agitée.
Et donc, ça veut dire que 2024 sera comme 2023 ?
2024 n'est pas encore terminé, donc on a exprimé nos ambitions.
C'est pour ça que j'utilise le futur, hein, ça s'appelle le futur. Hein.
Donc écoutez, moi j'ai une grande confiance dans ce que nous réalisons en ce moment.
L'innovation c'est clé en fait, ça a toujours été clé pour Michelin justement, face à la concurrence, face aux Chinois, face aux Américains, face aux Japonais, c'est historique. Là, est-ce que vous nous aviez montré du reste il y a quelques temps, toutes les nouveautés, tout ce que vous faites en termes d'innovation, parce que cette innovation... Elle vous sert ensuite pour votre activité principale, pour les pneus. Est-ce qu'en fait, vous n'avez pas été un peu trop vite en besogne, un peu trop ambitieux, lorsque vous disiez qu'il faut que plus de 20% de notre chiffre d'affaires soit réalisé en dehors du pneu ?
Alors aujourd'hui, nous avons déjà 16% de notre chiffre d'affaires qui n'est pas strictement dans la fabrication et la vente des pneumatiques. 16%. Donc 20% à l'horizon 2030, ce n'est pas un chemin assez considérable. Et vous avez raison de dire qu'il y a trois choses qui sont essentielles chez Michelin et qui ne changent pas. Tout le reste... peut évoluer et changer. La première chose, c'est l'attention aux personnes. La deuxième chose, c'est l'esprit pionnier, l'idée de se poser toujours la question de comment on pourrait faire les choses différemment. Et le troisième, c'est de croire en la science et la technologie. Et c'est pour ça que Michelin innove en permanence.
Florent Ménégaud, est-ce que vous diriez que la réindustrialisation de la France, elle s'est bien déroulée, elle est en route et que ben ça, c'est peut-être à mettre au bilan du précédent gouvernement? Ou vous pensez que pas tout reste à faire, mais enfin, en tous les cas, il y a beaucoup reste à faire.
Je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus positivement de l'industrie. Et donc, on a compris l'intérêt d'une industrie pour une économie.
Et alors ?
Et je me réjouis de cela et je constate que...
Non, mais est-ce qu'il y a eu de la réindustrialisation ou pas ?
Il y a beaucoup de choses qui se sont beaucoup améliorées en France, oui, au niveau industriel.
Mais on en est au début du processus, on en est... Ah bah allez-y, il faut vous le dire. Si vous trouvez que c'est pas le cas, bah dites-le.
Non, c'est pas que j'essaie de réfléchir à votre question parce que je me la suis pas posée dans ces termes-là. Michelin est une activité qui est complètement mondialisée.
Mais là je restais un instant sur la France. On a vu que vous avez dû fermer des usines, développé
Michelin
d'autres.
Par exemple, notre fabrication de piles à hydrogène. Nous avons ouvert la plus grosse usine dans le monde aujourd'hui qui fabrique ces piles. C'est à Lyon, nous l'avons fait. Par contre, c'est vrai qu'en même temps, Michelin est amené en permanence à revoir son empreinte industrielle et malheureusement, quelquefois, nous sommes amenés à fermer des sites industriels. Donc, en permanence, Michelin, en France d'ailleurs et partout dans le reste du monde, nous ouvrons et nous fermons des activités industrielles en permanence, mais globalement,
donc
le net est positif.
Pas plus en France qu'ailleurs.
Pas plus en France qu'ailleurs.
Et peut-être moins aujourd'hui qu'avant.
Aujourd'hui, la situation, encore une fois, l'environnement pour l'investissement, notamment pour l'innovation, pour la recherche, est beaucoup plus favorable en France.
Est-ce que la formation, vous l'avez dit du reste en préambule, Florent Ménégaule, est-ce que la formation est quelque chose de très important pour vous ? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous trouvez des compétences suffisantes et nécessaires ?
Alors, sur la formation, j'ai deux messages. Le premier, c'est qu'il faut impérativement remettre du contenu scientifique dans l'éducation dès le plus jeune âge.
Ouais.
C'est-à-dire que la science, elle est partout. En fait, c'est un regard sur le monde et il faut pas qu'on dégoûte
C'est une ouverture sur le monde aussi.
Ouais. C'est une ouverture sur le monde. Il faut aider les enfants à aimer la science et pas les décourager d'apprendre les sciences. Et la deuxième chose, c'est que la formation, notamment à travers l'apprentissage, a progressé très nettement depuis la dernière décennie en France. Je m'en réjouis parce qu'en fait, nous sommes sur des métiers très complexes et l'apprentissage est une très bonne façon d'engager les individus, de rapprocher toute la sphère de l'éducation avec la sphère de l'entreprise. Et je pense que séparer le monde de l'éducation du monde de l'entreprise, ça c'est une erreur grave.
Tout à l'heure, je recevais la patronne de Catherine Mangin, la patronne de McKinsey en France, parce que publie demain, lors de ses rencontres économiques à Aix-en-Provence, un rapport qui est sur la mondialisation et comment elle se réinvente, la réorganisation de la mondialisation. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, les critères géopolitiques, en fait, conduisent un peu la stratégie internationale des entreprises. Je m'explique, c'est-à-dire que en fait, les États-Unis travaillent moins avec la Chine, qui sont un peu devenus son ennemi, mais plus avec le Mexique, beaucoup plus qu'avant. Que la Chine, elle travaille beaucoup plus qu'avant avec l'Asie du Sud-Est, plus qu'avec nous ou plus qu'avec d'autres régions du monde. Donc, en fait, on travaille entre amis. Est-ce que c'est quelque chose que vous aussi vous percevez chez Michelin, c'est-à-dire que vous faites attention aujourd'hui de travailler avec dans des pays ou avec des entreprises qui sont friendly.
Alors, il est indéniable que la géopolitique est devenue une priorité stratégique importante. Avant, elle était intégrée dans la stratégie, mais elle n'était pas en haut de la pile. Aujourd'hui, elle est devenue en haut de la pile. Nous avons été amenés à sortir de nos activités en Russie, pas à cause de Michelin, mais parce que les circonstances extérieures nous sortions. Oui, mais en fait, ce mouvement-là, il a des conséquences mondiales. C'est-à-dire que derrière, dans nos chaînes d'approvisionnement, il a fallu tout reconsidérer à cause de ce mouvement-là. Et donc, aujourd'hui, effectivement, vous avez une réorganisation des supply chains qui doit s'opérer. Et ce qu'on voit surtout, c'est pour des questions aussi d'environnement, on ne fait plus traverser 20 ou 30 fois le monde pour fabriquer un produit fini. Ouais. On essaye de rationaliser un peu plus par zone géographique, ce qui est beaucoup de bon sens. Et pas uniquement de « je travaille entre amis ». Et Michelin, nous travaillons dans 175 pays dans le monde. Et donc, dans chacun de ces pays, nous sommes locales.
Oui, d'accord, c'est peut-être ça la solution. Vous faites le lien avec la question suivante à propos de supply chain. Est-ce que vous avez l'approvisionnement de votre supply chain aujourd'hui est revenu à la normale ?
C'est beaucoup mieux. Mais
à quel niveau
était dans le chaos et aujourd'hui on gère des incidents réguliers. Mais par exemple,
vous êtes à quel, à 80, 90, 70, 50 ?
Alors en fait, on est revenu à 90% de la normale.
D'accord.
À peu près. Donc on n'a plus de problèmes de pénurie énormes tels qu'on a pu les connaître il y a 2 ou 3 ans. Et nos flux sont mieux réorganisés. Les coûts de transport se sont bien améliorés. Par contre, typiquement, récemment, vous avez 5% de nos flux qui allaient de l'Asie vers l'Europe et qui passaient par le canal de Suez.
Oui.
Tout d'un coup, il a fallu renvoyer tous ces bateaux pour qu'ils fassent le tour de l'Afrique, pour revenir sur l'Europe. Et ça a doublé les temps de transport. Et en fait, des incidents.
Et augmenter les prix.
Écoutez, là, on n'a pas eu le temps de le faire parce que ça s'est passé très récemment.
Oui, d'accord. Et donc, à partir de là, maintenant, c'est quoi votre stratégie ?
Notre stratégie, nous avons appris à réorganiser nos supply chains très régulièrement. Donc, nos chaînes d'approvisionnement sont révisées en permanence en fonction des circonstances. Et donc, il y a des circonstances qui n'étaient pas prévues précédemment, comme des attaques sur les bateaux ou des choses comme ça, et que nous sommes obligés de prendre en compte. Mmh. Mais nous n'avons plus les problèmes de crise aiguë liés aux pénuries, soit de conducteurs de camions, soit de manque de containers, soit de manque de camions, soit ce type de sujet-là.
Et en conclusion, Florent Ménégaule, pour vous, les temps ne vont pas forcément être agités, mais est-ce que vous pensez que quand même, pour la France, ça va être une période très chahutée, donc ça aura un impact sur votre business ou pas.
Et la France, ça représente 8% de oui, nos activités, de notre chiffre d'affaires. Écoutez, attendons de voir le résultat des élections. Et pour l'instant, le futur, il se détermine chaque jour. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais Michelin est très résilient. Et donc, quels que soient
les circonstances, on a vu d'autres.
Nous saurons naviguer.
Merci beaucoup. Et pas de coup de pompe pour Michelin, en tous les cas.
Merci
d'avoir été avec nous. Florent Ménégaud, le patron de Michelin, était donc notre invité.
Journée spéciale pour la 24e édition des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence sur BFM Business. Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h32, on est de retour ici à Aix-en-Provence, les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. On va débriefer un petit peu tout ce qui s'est dit il y a quelques instants avec notamment le patron de Michelin, Florent Ménégaud, qui était votre invité. Edwige, bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume.
Bien sûr, puis beaucoup de monde autour de cet Hervé Gouletker qui est avec nous. Hervé, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue,
Guillaume.
Conseiller économique du cabinet de conseil Accuracy, Emmanuel Le Chypre est là. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Et le maître de cérémonie nous a fait la gentillesse, l'honneur. Bonsoir Jean-Hervé. Avec
bonsoir.
Le micro. Bonsoir. Bonsoir. Président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Pas mal de sujets avec vous à voir pendant une grosse vingtaine de minutes. D'abord, un mot de ce que nous disait Florent Ménégaud. Alors, l'homme qui a, qui a desmicardisé Michelin, finalement.
Ouais, absolument, qui a donc lancé cette initiative, qui a fait quand même beaucoup de bruit, qui a suscité beaucoup de commentaires sur le salaire décent. En fait, il avait donné une interview à nos confrères du Parisien, puis tout d'un coup, c'est devenu un sujet de réflexion économique. Je dis ça devant nos économistes. Surtout, ce qui était bien, c'est qu'il a parlé, il parle demain sur le rôle social de l'entreprise. Et alors là, c'est intéressant, parce que je suis sûre que si on fait un sondage là, avec tous les grands patrons qui sont derrière, ou même pas les grands patrons au chef d'entreprise, ça sera très clivant. Je ne pense pas que tout le monde considère que leur entreprise, qu'ils ont un rôle social dans leur entreprise.
D'accord avec ça, Jean-Hervé. Est-ce que toute entreprise a un rôle social en 2024, qu'elle le veuille ou non, finalement?
Moi, je pense que, en tous les cas, que ça va venir. Un exemple que Kedvige a particulièrement bien exprimé, c'est cette idée du salaire décent qui est quand même une nouveauté exceptionnelle, hein, cette idée. Mais si on prend par exemple le travail au-delà des 60 ans, dont vous savez qu'en France il est en pourcentage très faible, c'est bien l'entreprise qui à un moment déterminé va juger qu'elle est capable de stimuler, inciter, attirer les gens à travailler plus longtemps. On est un pays dans lequel à l'évidence, le discours des entreprises consistait à dire qu'à partir de 55 ans, il fallait dégager.
On ne vaut plus rien.
Il fallait dégager. Ce discours va changer et on est bien sur un domaine qui est un domaine de politique sociale et donc du rôle social de l'entreprise.
Emmanuel.
Oui.
Moi, je crois que
toute entreprise doit-elle avoir un rôle social, ou si elle ne l'a pas, elle ne le dit pas tout haut. Voilà.
Non, mais je pense que la question ne se pose pas. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les entreprises ont un rôle social, et ce rôle ne fait que croître face à la fois aux nouveaux besoins et face aux défaillances multiples de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez quoi? Que finalement, tout ce qui est en plus du salaire, mais qui vient en complément de pouvoir d'achat, de plus en plus, ce sont les entreprises qui y pourvoient. Vous voyez que les lacunes en matière de formation aujourd'hui qu'on a négligées pendant des années, parce qu'évidemment, quand il y avait qu'à ouvrir la porte pour voir la queue des gens qui avaient envie de trouver un travail dans votre entreprise. Ouais. Mais aujourd'hui, où il faut maintenant prendre en main la formation de ses salariés, comme il y a 30 ans, comme il y a 40 ans, hein, ce qu'on appelait les ingénieurs maison il y a 30 ans ou 40 ans, ça revient aujourd'hui. Les boîtes reprennent en main la question de la formation. Les boîtes reprennent en main même jusqu'à la question du logement de leurs salariés.
Aujourd'hui, oui.
Ben oui.
Enfin, ça commence.
Non. Et donc, ça commence. Et d'ailleurs, moi, j'ai été très frappé par une réflexion de Jacques Aschenbroin cet après-midi, qui dit, mais le seul lieu où, parce qu'il ne faut pas que tous nos salariés représentent finalement le panel électoral français, donc dans nos entreprises, il y a un tiers des gens qui votent Rassemblement National, etc. Oui. Et le lieu qui est relativement apaisé aujourd'hui, où les gens se retrouvent, c'est quand même l'entreprise. Ouais. Donc, ce rôle social, il va croissant, pas seulement pour des raisons de prise de conscience, de volonté de faire social, etc. Parce que c'est aussi dans l'utilité des entreprises.
Edwige.
Oui, non, j'ai cru que c'était mon voisin qui voulait intervenir. Non, moi, sur le rôle social de l'entreprise, là où Emmanuel Lechypre a raison, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'entreprise, ça rend énormément de services.
Oui.
On le voit bien, et notamment, c'est ce qu'apporte tout la tech, que ça soit pour s'occuper de vos affaires personnelles, de tout ce que vous n'avez pas le temps de faire, s'occuper de vos assurances, de s'occuper. Donc, on voit qu'il y a des services dans certaines entreprises qui sont en train d'être rendus une palette totalement complète. Mais c'est très loin d'être la majorité des entreprises.
Encore aujourd'hui, est-ce que c'est plus un phénomène de grandes boîtes, de grosses boîtes, fondamentalement? Même pas.
Non. Ouais. Ah non,
Non,
parce que les petites boîtes, regardez, il y a beaucoup... Parce que, par exemple, je reviens sur ce simple problème du logement.
Ouais.
C'est un problème qui concerne toute la France.
Bien sûr.
Même les petites villes, même, j'allais dire, les campagnes, entre guillemets. Et donc, vous avez tout un tas de PME aujourd'hui qui n'arrivent pas à trouver des salariés et à recruter parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Et donc, il faut bien qu'elles répondent à ce besoin.
Ouais. Hervé Gouletker, oui, d'amour. Allez.
Juste pour dire qu'on est quand même dans un monde où on parle beaucoup de l'ISR, de l'ESG, donc des dimensions environnementales, sociales, de gouvernance. Donc, normalement, au moins au niveau de l'affichage, toute entreprise est impliquée là-dedans. Après, il y a la réalité entre la forme et le fond, jusqu'où ça va. Et j'ai l'impression qu'il y a des situations très variables. Mais je pense que le tournant est pris. Après, c'est la question de vitesse avec laquelle les choses se mettent en place. Mais le stockholding, c'est-à-dire la préférence donnée à l'actionnaire, l'entreprise qui n'a de compte à rendre qu'à son actionnaire, aujourd'hui, c'est en train de se déplacer. Il y a tout un écosystème autour de l'entreprise et l'entreprise prend en compte son écosystème.
Toute question, il y a aussi la question de l'imaginaire. Ce que on représente toujours dans les boîtes de technologie américaines les plus élaborées, on voit des salariés qui jouent ping-pong, enfin ils sentent bien.
Et en plus c'est vrai.
L'imaginaire collectif.
Imaginaire collectif pour les autres. La petite boîte qui est dans l'Indre et qui fait de l'usinage, elle se dit ce serait la réussite absolue, ce serait quand même d'arriver à faire que je le ressente d'une manière ou d'une autre. Il y a quand même un événement et une évolution qui est frappante. La vraie question, c'est que dans les désordres que nous connaissons, je parle là de la France, les ordres dans lesquels, à tort ou à raison, mais une très grande partie des salariés jugent qu'ils ne sont ni considérés, notamment évidemment les peu qualifiés, ni considérés, ni bien rémunérés, ni ayant de perspective. Est-ce que ce mouvement qui est quand même souhaitable, puisque c'est un acteur important, l'entreprise au XXIe siècle, est-ce qu'il ira suffisamment vite pour arriver à régler tout ou partie des problèmes? On a parlé du problème de logement. Je veux dire, c'est pas encore fait demain, c'est pas encore demain la veille.
Non, mais ça, c'est un problème dans les Hauts-de-France, notamment pour toutes les gigafactories, où pour le coup, où il y a une réindustrialisation, puisqu'on en parlait aussi, et donc il y a un besoin, il y a une pénurie de logements absolument gigantesque.
Frein à la réindustrialisation, disait le MEDEF, je crois, il y a quelques années, très clairement.
Et quand même, au moment où on s'est interrogé sur l'accroissement du pourcentage des gens qui travaillent, des personnels de plus de 60 ans qui travaillent, vous savez qu'on est le record du monde en Europe, record d'Europe de la faiblesse du taux de participation, ça a été très frappant. C'est un coup d'arrêt. Personne n'a été capable de faire avancer ce dossier, qui est un dossier économique et social, parce qu'il fallait que les entreprises fassent montre de beaucoup d'imagination.
Hervé Gouletker, un mot là-dessus.
Juste un mot, je pense que...
Plus près de la bouche. Mais...
Jean-Hervé a raison. En fait, nous autres, les économistes, il y a des choses qu'on n'a pas vues. Les politistes, les sociologues avaient bien vu qu'il y avait une insatisfaction. Et comme il y a quand même une grosse partie de la vie qui se passe au travail, l'insatisfaction était liée au travail aussi. Donc, il n'y a pas que du pouvoir d'achat, il y a du pouvoir de bien-être. Et dans les débats plus politiques qu'on a aujourd'hui, il y a cette dimension qui est absolument présente.
Alors les économies, justement, je voudrais qu'on en parle. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 semaines là? Apparemment, le ton est monté entre les économistes d'un bord, de l'autre. Je vous entendais ce matin chez Nicolas Dose dire les sujets ont été posés de façon politique, Jean-Hervé Lorenzi. Tout ça vous laisse une frustration finalement?
Non, j'ai une vision totalement biaisée et je m'en excuse, mais je ne vais pas la changer. Je ne crois absolument pas qu'il y ait de véritables débats économiques. Pourquoi? Parce que c'est une option politique. La preuve, c'est que chacun a apporté son lot d'augmentation du revenu de l'ensemble de la population. Et donc, je crois que tout ça s'est fait sur des options tout à fait respectable, des uns, des autres et des troisièmes, mais dans lequel le débat économique n'était pas réellement sur un vrai programme. Moi, j'ai entendu des personnalités éminentes faisant partie du nouveau de la nouvelle gauche,
oui,
la NUPES 2, j'ai entendu des personnalités éminentes dire de toute façon c'est pas grave, on n'appliquera jamais. Donc il y a eu cette idée que c'était...
Il n'y a pas que ça. Oui,
oui, qu'il y a un combat, non mais il y a quand même eu un combat qui est d'abord et avant tout politique. On est en train de reconstituer un arc républicain, enfin c'est pas de l'économie ça.
Il y a les bases quand même de l'économie, c'est la politique de la demande, enfin le béaba, vous voyez, c'est la politique de la demande et la politique de l'offre, ça a commencé par là, et après tout en découle.
Ça vous laisse
on est dans l'économie, et vous enseignez ça à vos étudiants, Jean-Hervé.
Ça vous laisse une frustration ces trois semaines, là, au cours duquel on a vu beaucoup d'économistes prendre la parole, de tous bords politiques, Emmanuel, économique.
Moi je suis d'accord avec Jean-Hervé sur l'idée qu'en fait, on peut pas mettre tous les économistes sur le même plan, et qu'il est faux d'entendre ce qu'on a beaucoup entendu ici, depuis ce matin, même Jacques Attali, etc., dire, vous savez, l'économie c'est comme toutes les sciences sociales, finalement, on peut tous penser des choses différentes, et comme s'il n'y avait pas vraiment de vérité, mais je suis pas d'accord avec ça. Il y a des approches méthodologiques de l'économie qui font que tout le monde n'est pas au même niveau. Il faut être très clair. Thomas Piketty, Julia Cagé et tous ces gens-là ils ont avant tout une vision de la société qui est que ce sont des gens qui exècrent les inégalités. Ce sont des gens qui veulent la peau des riches et qui veulent absolument une société égalitaire et qui donc mettent au service de ce projet politique, leur science économique et leur savoir pour savoir comment on fait pour y arriver. Et il y a d'autres économistes qui sont ce qu'on peut plutôt qualifier d'économistes ingénieurs, qui sont plutôt des économistes qui, eux, ont juste envie de soulever le capot, de regarder comment ça fonctionne et d'expliquer à tout le monde comment ça fonctionne. Et à partir de là, on peut pas dire que tout le monde est sur le même plan. Donc moi, je suis pas d'accord pour renvoyer dos à dos aujourd'hui le camp des économistes idéologues et le camp des économistes ingénieurs. En gros, je suis pas d'accord pour envoyer dos à dos Piketty, Cagé et Blanchard, Tirole. Voilà.
Bon, vous avez vu, je donne la parole à Hervé Gouletka, vous avez vu cette tribune de Pierre Cahuc et d'André Zilberberg qui cite Max Weber, vous avez vu ça aujourd'hui, je les cite. Je cite Max Weber, l'éthique exige que les chercheurs se concentrent sur la validité de leur méthode et de leurs conclusions en faisant abstraction de toute considération personnelle.
On a un problème épistémologique. Logique, Jean-Hervé, quand même, entre les deux, non ?
Hervé d'abord, Hervé Gouletker là-dessus.
Moi, ce qui m'a très frappé, on a eu une campagne française et on a eu une campagne britannique. Quand vous voyez le contenu du programme économique du Labour au Royaume-Uni, avec le concept de Secure Economics, or qui fait référence à Janet Yellen, à Danny Roderick, donc il y a une conceptualisation sérieuse et il y a des propositions qu'on peut partager ou pas, mais vraiment relativement charpenté. En France, on a eu des programmes faits à la va-vite, ce qui veut dire que tous nos partis politiques, en fait, n'ont pas leur programme prêt. Ils le font lorsqu'il y a un événement. Et c'est vrai que au moins ceux dont on a beaucoup discuté, c'est-à-dire ceux de l'Union de la gauche, étaient quand même très faibles, avec une connotation historique. On avait l'impression qu'on avait repris un peu les programmes de 81 et qu'on les avait à peine mis.
Non, je suis obligé de modifier le regard sur 80 de mon ami Hervé. Le programme était avait été très travaillé, donc c'était un programme très travaillé. Il y a eu une erreur de conjoncture qui était évidente. La vie est faite d'erreurs, l'essentiel c'est de les reconnaître. Mais moi j'ai participé dans ma jeunesse, c'est-à-dire il y a quelques décennies, à la constitution de programme. Je me souviens du sérieux, de la solidité. Sur l'affaire de 81, qui est très intéressante, la moitié de l'administration économique française travaillait sur le programme, en gros, de...
Non mais Jean-Hervé,
il y avait de la...
Faire beaucoup la relance quand le monde est en récession...
La
relance dans le monde en récession, même si on avait
nationalisé
un programme derrière,
à 100% l'économie française...
C'est particulier.
Mais ça, je suis d'accord, mais il y a pire que ça. Faire de la relance quand vous savez que votre appareil de production nationale est en état d'asphyxie.
Si
qu'il n'est pas capable de répondre à ce surcroît.
Laissez Hervé répondre.
Juste, chers amis, j'étais en train de battre ma coulpe. Donc arrêtez d'accuser quelqu'un qui bat sa coulpe. J'ai bien dit qu'il y avait une erreur. Donc,
non, mais attendez, juste un mot.
Sur le montant
on parle des marchés après. Hein.
Non, mais... J'ai dit juste qu'en 4 jours, d'ailleurs, les gars, ils ont sorti une petite demande à la va-vite.
Il y a une chose qui discrédite ce programme du Nouveau Front Populaire. C'est qu'en fait, quand vous discutez, parce qu'on discute beaucoup quand même avec Thomas Piketty, etc., c'est des gens qui, quand vous leur dites, votre programme, c'est bien, mais en économie fermée. C'est-à-dire, si vous relancez la demande, paf, il y a des entreprises qui sont là. Mais or, on vit dans une économie ouverte. Et les 25 produits les plus consommés par les Français, rappelons-le, ne sont plus produits en France. Donc, et le seul truc qu'ils trouvent à vous répondre, Thomas Piketty, c'est toujours comme tous ces gens qui vous disent, oui, mais le reste du monde n'a qu'à faire comme nous. Donc, en gros, c'est eux qui font pas bien et il faut les convaincre de faire comme nous. Donc,
Hervé vous répondre et ensuite Edwige. Hervé Gouletka, près du micro, près de la bouche, très près.
Vous brouillez avec le micro.
Je suis assez d'accord avec ce que Emmanuel a dit, mais alors, à rebours, on pourrait dire que l'Union de la gauche a au moins essayé de faire un programme. Si on regarde le programme du Rassemblement National, ils avaient un programme qui était très, très hétérodoxe, pour pas dire pas très sérieux. Ils ont fait une marche arrière qui fait qu'aujourd'hui, on peut pas avoir le même dialogue sur le programme du Rassemblement National qu'on ne l'a sur celui de
l'Union de la gauche. Sauf que c'est un saut dans l'inconnu.
Oui, non, mais ça, je...
Non, mais c'est chèque en bois à gauche, chèque en blanc à l'extrême droite.
Attends. Bon, alors, Edwige, pour relier les économistes à défaut de relier les
membres. Un point un peu tardif, du coup, la différence avec la Grande-Bretagne, c'est d'abord, il y a une véritable culture économique anglo-saxonne qui n'existe absolument pas dans la culture française. On peut en profiter pour le dire, puisque les politiques ne sont pas là pour cause d'élection. C'est que les politiques français ne connaissent rien à l'économie. Donc, tous les programmes sont constitués sur des bases qui sont fausses au départ. Donc, à partir de là, on se retrouve dans des impasses dans lesquelles ont été certains programmes, on va dire.
Jean-Hervé, pour conclure très vite là-dessus.
Non, mais très rapidement, parce que c'est important. Un, il n'y a aucun des trois programmes. Celui du RN, c'est une plaisanterie sur lequel ils sont revenus. Celui qui considère... Enfin, c'est quand même... Je parlais économiquement, le reste... mais c'est quand même... Il n'y a pas de programme.
Oui, ce sont des impasses.
Aucun des trois programmes sont... Je vais filer un peu d'argent aux uns aux autres. Oui. Pas ce qu'on appelle un programme économique. Deuxième remarque, c'est la raison pour laquelle les rencontres économiques d'Aix, si je peux me permettre, ont pas du tout l'objectif de juger ces programmes. Politiquement, il y a peut-être des positions, et c'est tout à fait normal. On fait de la politique, enfin pas nous, pas tel ou tel, mais en revanche, nous avons travaillé de manière très soigneuse à partir du fameux dimanche, la dissolution, pour se dire quel est un bon angle d'attaque pour être utile. On sera utile parce que on repère que ces deux tiers de Français qui sont en colère, qui sont ni mieux ni moins bien que les autres, ils sont en colère pour toute une série de raisons. Et ce sont sur ces raisons qu'il faut travailler, non pas pour lundi prochain, non pas pour mardi, mais peut-être pendant trois mois, quand tout le monde se sera calmé.
Bon, voilà pour les économistes qui sont un peu montés dans les aigus. On n'est pas vraiment habitué à ça. Donc c'était bien qu'on en parle quelques instants.
Non, mais c'est bien que les économistes français, qui quand même d'habitude sont assez peureux, parce que non, mais quand vous regardez aux États-Unis, par exemple, c'est souvent Hervé que les prix Nobel font des pétitions pour ci pour ça. Pour une fois que les économistes académiques sortent du bois, on va pas s'en plaindre.
Alors Hervé, il reste quelques minutes. Je voudrais qu'on parle des marchés financiers qui semblent depuis quelques jours acheter une paralysie gouvernementale, une paralysie législative finalement, et acheter l'idée d'un gouvernement technique en France qui nous permettra de parler de Mario Monti, peut-être qui s'est exprimé cet après-midi, qui nous a peut-être donné quelques bons conseils. Hervé, comment est-ce que vous regardez la situation aujourd'hui sur les marchés ?
Il y a le marché français, mais le marché français il est dans le grand tout du marché international et donc il peut y avoir du parasitage. Sur le marché français, on est avec une grille d'analyse incertitude contre risque. Les marchés considèrent que le risque principal pour eux, c'était le programme de la gauche. La gauche ne sera pas majoritaire. Aujourd'hui, il se dit soit on a un programme qui est très vague, soit en fait on aura un gouvernement technique. Et ils se disent que dans les deux cas, on a évité le pire. Mais là, aujourd'hui, on a corrigé le risque extrême qu'ils voyaient, mais on est face à l'incertitude. Donc globalement, la réaction du marché, elle se verra dans un deuxième temps, quand on comprendra un peu mieux, dans un environnement international plus large tout de même, où il se passe des choses aux États-Unis qui donnent le là sur les marchés. En fait, il y a sans doute un ralentissement plus marqué qui est en train de se mettre en place, avec des implications sur les prix avec des conséquences contradictoires sur les taux, ça peut pousser à la baisse sur les taux longs. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais d'un autre côté, la perspective de Trump fait qu'on a aujourd'hui des taux à 10 ans qui montent plus que les taux à 2 ans. Il se passe des choses bizarres et tout ça, ça nous impactera aussi.
Edwige, juste une réflexion. Chercher un invité pour lundi au lendemain du deuxième tour en me disant, tiens, ça serait intéressant. Je demande à une personnalité que je ne vais pas citer en me disant, est-ce que vous pouvez venir, etc. Il me dit, non, je ne veux pas m'exprimer tant que je n'ai pas des données précises, des données économiques précises. Et pour l'instant, je n'en ai aucune.
Personne n'a aucune. Non, mais est-ce qu'il y a l'idée, quand même, en quelques mots, vraiment, Hervé, que les marchés sont en train d'acheter cette idée du gouvernement technique, à l'instar de ce qu'on a vu en Italie, ou se dire finalement la Belgique, mais la Belgique n'est pas la France finalement. Est-ce que la France peut durer comme ça pendant des mois?
Si on a un gouvernement technique, on a une question de temporalité. Le gouvernement technique s'est fait pour durer un temps, ça durera peut-être un an, mais ça n'ira pas au-delà. Oui. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est regarder les paris du marché au-delà d'un an, et si c'est le cas, à mon avis, ça sera peut-être relativement confiant avec des maturités courtes. Oui. Sur des maturités plus longues, je ne suis pas sûr.
Mario Monti a dirigé un gouvernement technique pendant 5 mois. Il s'est exprimé aujourd'hui.
Un an.
C'était un an.
Un an.
Ah, j'avais 5 mois, pardon, dans mes tablettes. Pardon. Qu'est-ce qu'il nous a dit aujourd'hui à ce sujet, Mario
très,
Monti?
Des sujets très intéressants, parce qu'au fond, qui nous éloigne un peu de la situation française. Il est arrivé dans un pays qui était dans une très grande difficulté financière. Donc il a employé le mot de faillite. Il y avait à l'époque il y avait eu quasiment 500 points de décalage
avec l'Allemagne.
Donc c'était vraiment un sujet majeur. Lui a réussi en 3-4 jours à ce que ce 500 redescende de manière très très sensible. Et il expliquait, ça peut pas durer très longtemps. Pour quelle raison? Parce que le gouvernement technique, c'est un gouvernement de gens où les gens qui dirigent sont prêts à annoncer les très mauvaises nouvelles à la place des partis traditionnels qui se disent on n'y échappera pas, mais il vaut mieux que ce soit pas nous qui le disions. En France, on n'est pas tout à fait dans cette situation-là, parce que quand on y réfléchit, les propositions des différents programmes que nous avons tous admirés pour toutes les qualités qu'ils représentent, ils n'ont en réalité aucune mesure de restriction. Ce ne sont que des mesures d'addition. Donc on est dans une situation différente. L'idée de trouver un gouvernement technique, Hervé connaît ça par cœur, mais je pense que mardi, mercredi, jeudi, les taux d'intérêt vont quand même jouer un rôle de juge de paix assez rapidement.
Emmanuel, est-ce que pour vous, le gouvernement technique, c'est un mirage de considérer pour les marchés que c'est le moindre mal, finalement?
Je rajouterai rien sur les marchés, Hervé l'a dit. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que tous les chefs d'entreprise présents ici disent. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement le premier effet, qui était l'effet soulagement, d'échapper manifestement, vu les sondages qu'on a eu encore aujourd'hui, aux extrêmes. Donc il y a eu ce soulagement, mais la vraie question aujourd'hui, c'est comment on pilote nos activités dans un pays dans lequel il y a un gouvernement très large, soit technique, soit d'une coalition tellement large que finalement il n'y a pas tant que ça de réformes possibles, si vous vous mettez finalement sur une espèce de commun possible. Et donc c'est marrant de voir qu'il y a plusieurs attitudes. Paradoxalement, j'ai rencontré pas mal de patrons de PME qui sont pas forcément très tournés vers l'export, etc. Qui eux se satisfont assez de cette situation. Ils se disent il y aura pas de mauvaises nouvelles à craindre du côté de la fiscalité, de tout ça. Donc finalement, on va nous foutre un peu la paix et ça peut aller. Par contre, les représentants des grands groupes, je peux vous dire qu'ils se posent énormément de questions sur la compétitivité. Il y a tellement de grandes questions de compétitivité qui restent en suspens, avec des grands débats sur l'énergie, des grands sujets comme ça, que pour les grands groupe, il y a vraiment une réflexion intense qui est à l'œuvre.
Edwige.
Oui, mais juste un point, je posais la question à Florent Ménégaud, donc le patron de Michelin, il y a quelques instants, et il me disait, écoutez, moi, la France, c'est 8% de mon chiffre d'affaires.
C'est ça.
Donc, si vous voulez, ça n'aura pas un impact majeur sur mon entreprise, sur ma stratégie.
Ça garantit une certaine résilience, comme dit lui-même.
Il y a beaucoup d'investisseurs, sur le coup, les investisseurs étrangers, là, pour le coup, c'est pas vraiment très positif, ce qui se passe.
Non, c'est même, le patron de France Invest, il est très clair.
Ouais, 15 secondes, Hervé, qu'est-ce que vous voyez pour les prochains jours au-delà du 8? Enfin, question sans réponse, évidemment. Mais
juste un point, c'est que au moins sur les marchés actions, faut faire le distinguo entre les sociétés très sur les marchés internationaux et oui. celles qui sont plus franco-françaises.
Les plus domestiques, évidemment, oui, c'est pas la même.
Les
oui.
premières, elles tiennent le choc. Et puis, d'une façon ou d'une autre, ce n'est qu'un petit problème. Celles qui sont très implantées, et ça commence par les banques, par exemple, oui. sur le marché français, c'est plus compliqué.
Bon, Jean-Hervé, vous avez encore quelques heures pour rassurer tout le monde, finalement, pour qu'on en 30 secondes. Allez,
non, d'abord, il y a
non, vous voulez pas. Non, bon, non,
qu'est-ce qui va sortir, Jean-Hervé?
Ah, attendez. Moi, je considère que les dissolutions, qui est comme une mesure totalement stupide, mais est une chance pour ici, parce que en fait, on a ce rassemblement de tous ces talents dont ouais. vous, évidemment vous faites partie en premier lieu, et sur lequel on va enfin réfléchir sur des sujets qui ne sont pas réglés dans notre pays. On n'a pas réglé le problème de la jeunesse.
Qu'est-ce qu'il y aura dans la déclaration, Jean-Hervé?
Et je ne te le dirai pas parce que c'est demain et ça donnerait le sentiment que ça a été préparé.
C'est vrai qu'il y a un communiqué donc, final. Donc, comme au G7.
Un ou deux petits trucs spectaculaires là. Allez.
Je sais pas que. BFM Business, c'est vraiment.
Oh.
Sur la fiscalité. Est-ce qu'il y a un engagement sur la fiscalité?
Allez, oui.
Moi, je ne suis pas contre l'idée qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, des transferts entre les générations, et notamment le fait absurde que la CSG des retraités soit différente de la CSG moyenne. Alors, on sort que vous créez des arguments historiques absolument bidons. Tout ça, voilà un élément. Il y a un sujet clé qui est sur le fait de ce 1,5 million de NITS. C'est une vraie discussion qu'on a eue cet après-midi, ce 1,5 million de jeunes qui ont été désocialisés parce qu'ils
sans
sont
emploi, sans formation, sans stage, sans rien.
Sans rien, parce qu'ils sont dans des formations qui conduisent à la désocialisation. Oui. Un, il est temps que notre pays arrive à réellement essayer de résoudre le problème. Et deuxième aspect, pour remettre des gens qui sont désocialisés au boulot, ma conviction, c'est qu'il faut un peu les financer. Voilà.
Donc il y a des tas de sujets. Le retour des emplois jeunes, quoi.
Le retour. On verra demain. Voilà. Merci à tous les quatre d'être venus pour cette première partie des experts sur BFM Business. Merci infiniment. Hervé Goulet-Kerr, merci beaucoup. Hervé, lundi, Edwige avec un invité. Ben, on verra.
Non, ben, finalement, ce sera Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne.
Il y aura bien les choses à
nous dire. Et en même temps, assez intéressant de voir comment les marchés vont réagir lundi.
Absolument, ça sera la grande question.
Il faut toujours se tourner vers les valeurs sûres dans les moments d'incertitude.
Exactement.
Merci, Emmanuel.
D'accord, c'est pour ça que nous sommes là, Emmanuel.
Merci, Jean-Hervé, d'avoir été avec nous. Jean-Hervé Lorenzi, président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui nous accueille aujourd'hui. Merci infiniment. 18h57, on revient dans un instant, encore un beau programme d'ici 20h sur BFM Business. On sera avec le directeur général et président du directoire de Euronext, Stéphane Boujna. On sera avec l'ancienne ministre du Travail, Myriam El Khomri, avec le patron de la CCI Île-de-France, Dominique Restineau, puis nos experts qui reviennent 19h30, 20h pour bien sûr débriefer toute l'actualité. À tout de suite.